l'actu des oubliés. Saison 6. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Ce mois-ci, nous revenons sur la victoire populaire qui a marqué le combat contre l'ICE aux États-Unis lorsque le 12 février, l'administration fédérale des États-Unis annonce la fin de l'opération de l'ICE des villes jumelles de Minneapolis et de Saint Paul. Nous n'allons pas revenir en détail sur l'histoire de l'ICE et la manière dont Trump en a fait sa milice depuis son retour au pouvoir. Pour cela, nous vous invitons à réécouter le premier épisode de cette saison 6, consacré aux émeutes de Los Angeles contre la présence de l'ICE en juin dernier. Rappelons seulement que le néo-fasciste au pouvoir a élargi les prérogatives de cette police aux frontières, lui permettant d'arrêter et d'expulser n'importe quelle personne née à l'étranger et incapable de prouver qu'elle réside depuis plus de 2 ans dans le pays. Son budget a lui aussi été augmenté à 170 milliards de dollars, davantage que les armées espagnoles, turques ou australiennes. Le magazine Indies Times titrait ainsi en octobre « La 13e armée du monde déchaîne sa violence à Chicago ». La force de frappe et de célérité avec laquelle l'ICE peut désormais agir aboutit dans les faits à une constellation d'abus. Toute personne non blanche est une cible potentielle, et si par malheur elle n'a pas de preuves sur elle, il peut arriver qu'elle soit expulsée avant d'avoir pu justifier légalement de sa présence aux États-Unis. Des personnes sont même arrêtées alors qu'elles se rendent à un jugement nécessaire dans leur parcours de régularisation. Et même en cas de libération, le traumatisme reste et la peur se répand dans les communautés. Les opérations s'accompagnent d'une campagne médiatique nauséabonde, déshumanisante et xénophobe. Trump utilise le terme « alien » pour parler des personnes nées à l'étranger. On compare les personnes ciblées à des Pokémon en reprenant le slogan du jeu « Attrapez-les tous ». Les interventions de l'ICE se sont filmées et diffusées sur les réseaux pour créer la terreur dans la population. Les coups d'éclat contre l'ICE se multiplient et un véritable mouvement local comme national se construit. Car après LA, Washington et Portland, où la garde nationale est systématiquement envoyée pour réprimer les oppositions, l'ICE s'apprête à mettre les pieds à Chicago. La tension est maximale, en particulier dans la capitale de l'Oregon. En ce mois de septembre, Trump clame « Portland est un enfer sur Terre et les antifas sont des terroristes ». Voilà des semaines que le site hébergeant l'ICE est encerclé. Tournant en dérision le président, on défile déguisé en animaux dans des cortèges carnavalesques. Dans le New Jersey, c'est un autre centre de détention qui est envahi. Son activité doit être interrompue durant plusieurs mois. Second part of the song, 911 when I'm passing the lawn. Still a long way from the fields where I'm from. Take a look at your son, taking mass of the brawn, man. Hey, you know she looked real fine. Porcelain skin and her hair like wine. She came up to me and she looked in my eyes and she said we could date when her grandma dies. Et voilà que Trump déclare la guerre à Chicago, ville sanctuaire et de résistance. On y observe un changement de méthode. Désormais, l'ICE fait des rondes à bord des SUV banalisés et arrête les gens au hasard dans les rues, sur la seule base de leur aspect physique. À Logan Square, quartier du nord-ouest de la ville qui abrite une importante communauté latino, les rues se vident. L'animation habituelle, les vendeurs ambulants, la musique, tout disparaît au profit d'un silence pesant, l'eau de toute société vivant sous un régime fasciste. Et pour celles et ceux qui décident de résister, les mêmes méthodes qu'à LA ou Portland sont mises en place. Dans les quartiers, les solidarités émergent sous 4 formes principales. D'une part, des groupes d'information diffusent toutes les informations nécessaires à la fois aux personnes menacées et aux personnes qui souhaitent soutenir. Première chose à savoir, l'ICE n'a pas le droit de pénétrer dans un domicile privé. À New York, le maire de la ville fraîchement élu, qui s'est rendu célèbre durant la campagne pour afficher son soutien au peuple palestinien, fait lui-même la promotion du fascicule « Connaître ses droits ». Deuxième chose, comme les personnes menacées par l'ICE sont contraintes de demeurer chez elles, des réseaux d'entraide se mettent en place. À Chicago, à peine l'ICE est arrivé qu'elle tue. Le 12 septembre, un père de famille d'origine mexicaine est assassiné alors qu'il amenait ses 2 enfants à l'école. La police de l'immigration l'accuse d'avoir voulu renverser les agents avec sa voiture. Version démentie par les médias. L'événement terrorise la population et dans les quartiers, on s'organise pour soutenir les personnes qui pourraient être menacées en leur faisant des courses, en emmenant leurs enfants à l'école ou en les soutenant financièrement lorsqu'elles ne peuvent plus aller travailler. Cynthia Cortez dit ainsi à Mediapart.
Je sais que les gens ont peur de sortir de chez eux. Les gens ne font pas leurs courses. Les enfants ne vont pas à l'école. Je le fais donc pour eux. Les gens ont du pouvoir. Une seule personne peut changer beaucoup de vies.
Troisième idée, l'Ice Watch, la surveillance. Les communautés s'organisent en groupes de réponse rapide afin de repérer les déplacements de la police de l'immigration et de pouvoir se mobiliser rapidement lorsqu'elles se positionnent pour procéder à des contrôles et à des arrestations. Repérer les hélicoptères noirs, les véhicules aux vitres teintées, relever systématiquement les plaques des voitures, patrouiller dans son quartier pour repérer les uniformes. Un grand nombre de signes peut indiquer une intervention imminente. Les militants et militantes sont entraînés à les repérer. No cap uptown ready for lift off, but I can't even get up in a ball with Tim's on. Why not? Well, that is obvious as well when I see sirens in the rearview with a ominous BLM doesn't mean I want a politic catch a backhand like a compliment. Et comme les interventions de l'ICE sont de plus en plus imprévisibles, l'outil le plus utilisé devient le sifflet. On le porte quotidiennement pour pouvoir alerter à tout moment. Le code, des petits coups irréguliers pour prévenir la présence de l'ICE, un long sifflement pour avertir qu'une interpellation est en cours. Le but, faire se réunir un maximum de gens en un minimum de temps. Encercler les voitures de l'ICE pour les empêcher d'avancer, cerner un bâtiment et ne laisser sortir les paramilitaires que lorsqu'ils acceptent de quitter les lieux sans arrêter personne. Former une foule, faites du bruit, devient le slogan d'une population où tout le monde se sent concerné par une autodéfense populaire devenue nécessaire face à l'État fasciste. L'Illinois Coalition for Immigrant and Refugees Rights tient en permanence une ligne téléphonique où toute personne peut obtenir de l'aide dans 15 langues différentes, dont le Quichua, l'Ourdou, l'Hindi, l'Ukrainien, le Vietnamien ou encore le Polonais, dans un but de support légal, de services sociaux ou de dénoncer toute activité de l'ICE. Le Chicago Tempest Collective écrit.
Parmi les milliers de citoyens de Chicago qui ont rejoint les groupes de surveillance de l'ICE, beaucoup n'avaient jamais participé à des mouvements sociaux auparavant. On y apprend en s'organisant. Des quartiers entiers se mobilisent pour manifester dans les rues lorsqu'ils sont informés que l'ICE harcèle leurs voisins. Les enseignants syndiqués des écoles tiennent tête aux agents fédéraux et refusent de laisser leurs élèves ou leurs parents être enlevés.
Quatrième levier, l'occupation, en particulier aux abords des QG et des centres de détention de l'ICE, comme à Portland. À Chicago, c'est chaque vendredi avant même le lever du jour que le centre de détention de Broadview est bloqué. Il est une plaque tournante de la détention de personnes dites étrangères dans le Midwest. Les centres de détention de l'ICE sont limités à 150 personnes dans l'Illinois, ce qui représente un problème logistique. La police de l'immigration peut arrêter autant de personnes qu'elle veut. Si elle ne peut pas les enfermer, elle sera obligée de les relâcher. Les blocages ont lieu le vendredi car c'est le jour où les transferts de prisonniers ont lieu vers l'aéroport et vers d'autres centres de détention, notamment vers le Texas. Le 19 septembre, comme le raconte Crime Think, les contestataires arrivent dès 4h30 du matin pour bloquer la sortie des premiers fourgons qui tentent de quitter le centre de détention. Ils sont obligés de faire demi-tour. Et toute la journée, la foule harcèle l'ICE qui tente des sorties à coups de gaz au poivre pour disperser la foule. Les vidéos qui sont diffusées sur les réseaux participent à amener toujours plus de monde face au centre. Des familles parviennent même à entrer en contact avec leurs proches à l'intérieur. Mais la violence de l'ICE connaît peu de limites. Des personnes sont blessées, parfois les agents menacent la foule de leurs armes à feu. Et lorsqu'ils sont dépassés, c'est la police locale qui vient en soutien. Fin septembre, le centre de détention s'équipe finalement de grandes grilles qui limitent les affrontements directs.
ICE out now ! ICE out now ! ICE out now !
À Chicago, la plateforme Hands Off Chicago coordonne les actions de tous les collectifs de quartier et s'articule aussi autour des luttes LGBTQIA+ et des résistances féministes, notamment pour l'avortement. Elle est également en première ligne lors des mobilisations nationales, comme celles qui ont été baptisées les No King's Day, le jour du refus du roi. La deuxième du genre est organisée le 19 octobre. Elle réunit 250 000 personnes à Chicago et 5 millions dans l'ensemble du pays. L'histoire antiraciste de la ville y est rappelée, comme cet héritage datant de 1850 où Chicago avait refusé d'appliquer la loi qui imposait d'expulser vers les États du Sud les esclaves qui avaient fui et trouvé refuge au Nord. Le site d'info anarchiste Crime Think rappelle alors le double rôle de l'ICE. D'une part, la police de l'immigration a des objectifs affichés, chiffrés même, puisque Trump vise l'expulsion d'un million de personnes par an durant son mandat. Mais d'autre part, elle sert le dessein plus silencieux d'élever de plusieurs crans le niveau de terreur dans le pays. L'État fédéral veut normaliser l'utilisation de la garde nationale contre une population dissidente ou contre des villes qui s'estiment sanctuaires. Et si à Chicago l'envoi de la garde nationale est bloqué par une juge, le fait que le président utilise la menace suffit à montrer l'autoritarisme qui avance. Black Cat, White Town. Black Cat, White Town.
White town, black kid, white town, black kid.
Plus largement, la frange fasciste au pouvoir veut briser toute initiative solidaire, éroder le lien social, diviser les communautés et isoler les minorités. Et c'est au service de la domination capitaliste que cette violence est utilisée. Il est plus facile de dominer, d'exploiter une masse où chaque personne est isolée, laissée à elle-même, sans soutien ou support pour faire respecter ses droits ou les défendre. Utiliser la violence pour répandre la confusion, la division, et finalement dominer les corps et les esprits pour en extraire la richesse, nous avons là l'un des éléments clés du fascisme comme prolongation de l'empire capitaliste colonial. Le site À l'encontre écrit
« Au cœur du capitalisme se trouve la demande d'une main-d'œuvre à la fois vulnérable et facilement exploitable, souvent fournie par des travailleurs et travailleuses sans papier. Les frontières agissent comme des mécanismes de contrôle de la main-d'œuvre, dictant qui peut participer à la population active et dans quelles circonstances. Les lois sur l'immigration ne sont pas vraiment conçues pour protéger les travailleurs et travailleuses des États-Unis de la concurrence. Il s'agit plutôt d'un outil permettant de créer un marché du travail à plusieurs niveaux, où certains travailleurs peuvent être surexploités, tandis que d'autres restent précaires et divisés.
Malgré des salaires inférieurs au minimum légal et des conditions de travail illégales marquées parfois de violences régulières, ce sous-prolétariat ne peut se plaindre à cause de la menace constante d'expulsion. À l'encontre poursuit.
Cela profite au capital de deux manières. Premièrement, en fournissant aux employeurs une main-d'œuvre bon marché et exploitable. Et deuxièmement, en exerçant une pression à la baisse sur les salaires et sur les conditions de travail de l'ensemble de la population laborieuse. L'effet le plus néfaste de l'ICE est peut-être son rôle dans la division de la classe ouvrière. En cultivant la peur et le ressentiment envers les immigrants, l'ICE sape la solidarité nécessaire à une organisation syndicale efficace et à un changement politique.
Et c'est bien pourquoi l'ampleur de l'auto-organisation des populations pour faire échec à l'ICE est une immense victoire. Le 11 novembre, lorsque prend fin l'opération de l'ICE à Chicago, Crime Think célèbre la résistance que la population de l'Illinois lui a opposée. Seulement 1,5% de toutes les personnes privées de papier vivant dans la région ont pu être arrêtées, dit le site, ce qui constitue tout de même 3000 personnes. On peut encore lire.
Nos premières confrontations avec l'ICE étaient terrifiantes. Ils ne se comportent pas comme les forces de l'ordre habituelles, mais comme des soldats. Ils sont habillés de tenues de combat intégrales, sont à l'aise avec le fait de gazer tous ceux qui les défient, ne font pas la différence entre une contestation violente et non violente, et ne modulent généralement pas leur niveau d'agressivité selon les circonstances. Et pourtant, nous avons pu constater au fil du temps que tant qu'ils n'étaient pas soutenus par la police locale envoyée par les élus démocrates, leur capacité à contrôler la rue est fragile.
Malgré cette résistance exemplaire, Trump poursuit son œuvre. C'est un véritable changement de régime qu'il tente d'instaurer avec un relais dans les États qui sont acquis à sa cause. Dernier exemple en date, fin février, le Kansas a notifié aux personnes trans que leur papier d'identité n'était plus valide et qu'elles devaient en demander d'autres sur lesquels serait inscrit le genre qui leur a été assigné à la naissance. En attendant, elles ne peuvent notamment plus conduire ou faire toute autre chose qui nécessite des papiers en règle. Là encore, la résistance s'organise. Le Colorado voisin s'érige en état-refuge et offre de fournir tous les moyens nécessaires pour accueillir les personnes trans qui souhaiteraient déménager dans un état où elles seraient en sécurité. À la mi-novembre, lorsque l'ICE quitte Chicago, elle investit Minneapolis. Le premier affrontement a lieu le 18 novembre. Pas tout à fait le premier, car le 3 juin, 6 mois plus tôt, il y avait déjà eu une réaction populaire lorsque l'ICE avait prétexté de démanteler un réseau criminel pour pénétrer dans un restaurant et tenter de kidnapper des salariés. Le quartier avait aussitôt réagi, empêchant les agents de se déplacer. Une escarmouche qui avait précédé de 72 heures le soulèvement de Los Angeles. Par la suite, sans être totalement épargné, il semble que la capitale du Minnesota soit restée plutôt calme. Ville démocrate et bastion des luttes antiracistes et du mouvement Black Lives Matter depuis l'assassinat par la police de George Floyd en 2020, elle demeurait cependant dans le collimateur de Trump jusqu'à l'automne. Streets full of cages, flags soaked in lies, you rule with terror, while the innocent cry. En ce 18 novembre, le pays entier est sous pression. L'ICE occupe la Caroline du Nord. Des défilés massifs ont lieu à Raleigh, Memphis et Charlotte avec le slogan « Pas de justice, pas de paix, la police est raciste ». À Minneapolis, dès 9h, c'est la première alerte. Des véhicules se montrent et disparaissent aussitôt. 9h30, seconde alerte. Cette fois, ils sont garés. Très vite, 200 personnes se rassemblent en face d'un entrepôt cerné par un cordon de policiers. Des agents finissent par sortir avec des personnes menottées, déclenchant la colère de la foule qui paralyse les véhicules. Les gaz ne se font pas attendre et les voitures de l'ICE se sont attaquées, les vitres brisées. Finalement, elles parviennent à s'enfuir et un débat naît dans la foule, certains clamant « N'utilisez pas la violence, c'est exactement ce qu'ils veulent !» D'autres répliquant « Là c'est bon, on en a assez, il faut se battre !» Peu après, un homme confie à un journaliste de Crime Think.
Ils ont pris mon père. C'est pas un criminel, il bossait. C'est un père de famille. Ils viennent de nous l'arracher. Je suis dévasté. Mon père bossait là depuis plusieurs années pour soutenir la famille. C'est un bon gars, c'est pas un criminel. Il prenait soin de nous. Il a appelé ma mère ce matin. Il a dit que l'ICE arrivait à son boulot. Je dormais parce que je travaille jusque tard dans la nuit. Mais dès que j'ai su, je suis venu direct ici. Ma sœur était déjà là. Ils l'ont poussé et ils ont pris mon père.
Les attaques de ce que de plus en plus de gens nomment désormais l'armée d'occupation se multiplient, surtout à partir du 2 décembre. Les agents de l'ICE sont si nombreux qu'il est impossible de traverser la ville sans les voir plusieurs fois. On parle de pogrom racial, des personnes non blanches sont kidnappées en pleine rue, à l'arrêt de bus, parfois à l'aide d'un logiciel de reconnaissance faciale. C'est parfois plusieurs jours après qu'elles sont libérées à condition qu'un proche amène leurs papiers au centre de détention. Les 81 réseaux d'intervention rapide de Minneapolis sont sur le qui-vive en permanence. Au départ 4000, mais on parle bientôt de 10 000 personnes qui patrouillent, alertent les voisins, suivent et encerclent les agents de l'ICE dès qu'ils en voient. Dès que possible depuis l'été dernier, des personnes sont postées aux portes du Whipple, le QG de l'ICE, pour prévenir de ces allées et venues. Un chat internet est créé pour récolter tous les signalements dans le Southside, et des discussions sont entretenues en permanence sur le réseau Signal pour tous les lieux sensibles, établissements scolaires par exemple. Autre méthode, épuiser l'occupant. Les hôtels où dorment les agents sont assaillis par des fanfares et des groupes bruyants. Parfois 25 personnes suffisent à réveiller tout un escadron à 3h du matin. Des formulaires ont été mis en ligne pour que les employés des hôtels puissent avertir de manière anonyme que l'ICE a pris quartier dans leur établissement. Des groupes Signal sont créés spécialement pour l'occasion, afin que l'info ne fuite pas, et on se retrouve pour se répartir les rôles. Une personne médiatrice si la police se pointe, une personne chargée d'expliquer voire de recruter des passants, etc. On vient avec des lampes torches surpuissantes pour éclairer les fenêtres, et avec des alarmes portatives qui se déclenchent lorsqu'on retire la goupille et ne s'arrêtent pas tant qu'on ne l'a pas remise. Lorsque la police arrive, il suffit de se fondre dans la ville et de passer à l'hôtel suivant. L'idée de déclencher des alarmes de voitures dans le quartier surgit aussi assez rapidement. Début janvier, des appels circulent à renforcer encore la pression. L'ICE est une agence en crise, dit-on. Elle peut être vaincue. Trump, de son côté, a fait de Minneapolis son champ de bataille le plus symbolique. Le 5 janvier, il déploie de manière inédite 2000 agents de l'ICE supplémentaires, portant le total à 3000. Le lendemain, un résident de Minneapolis meurt dans un centre de détention au Texas. Et le surlendemain, le 7, Jonathan Ross, agent de l'ICE, abat de sang-froid Renee Nicole Good, alors qu'elle était en train de dégager son véhicule de la chaussée. Le crime a lieu à seulement 6 pâtés de maison de là où George Floyd a crié « I can't breathe, je ne peux pas respirer », juste avant de mourir sous les coups de 4 policiers en 2020. Non seulement la femme de 37 ans ne présentait aucun danger, mais l'ICE empêche ensuite un médecin présent sur place de lui porter les premiers secours. Un meurtre pur et simple, pourtant justifié par Trump et sa secrétaire à la sécurité intérieure, qui accuse Renee Nicole Good de terrorisme, alors qu'elle était simplement présente avec sa femme pour observer et dénoncer l'ICE. La scène est filmée, y compris par la caméra piéton du meurtrier, que l'on entend traiter la victime de salope, juste après lui avoir tiré 3 fois dessus. La foule émerge de partout. Ce n'est que grâce à l'intervention de la police municipale que les agents parviennent à quitter la scène de crime. La Portland Avenue est rapidement noire de monde. On crie « Fists up, feds down, get the fuck out of town !» Les poings en l'air, les fédéraux à terre, cassez-vous de notre ville ! L'ICE surgit à nouveau. Elle tire des balles de poivre à bout portant dans les visages. Des barricades sont érigées, dont certaines vont rester plusieurs jours. L'une d'elles porte l'inscription « Protégez les vivants, honorez les morts ». Plus tard dans la journée, l'ICE essaye encore de kidnapper l'élève d'un lycée. La résistance les fait fuir. Et au même instant, dans le centre-ville, un groupe d'une 50aine de personnes brise les portes du palais de justice et entame une occupation. de nombreux cortèges se forment dans les quartiers. Le soir, 10 000 personnes se rassemblent sur Portland Avenue. Le pays, le monde peut-être, sont atterrés. Mais les personnes qui surveillent l'ICE depuis plusieurs semaines ne sont pas surprises. Nombre d'entre elles ont été intimidées, menacées avec une arme, ont vu leurs pneus crever ou ont même été kidnappées par l'ICE et relâchées en rase campagne, parfois de nuit et par des températures négatives. Les émeutes sont quasi quotidiennes. Une semaine après l'assassinat de Rodney Good, dans la nuit du 14 janvier, des coups de feu sont entendus. L'ICE a encore tiré à balles réelles. Les téléphones se mettent à sonner. Combien de personnes, vivantes ou mortes? Un garçon de 12 ans, vénézuélien. L'ICE a tiré sur la maison parce qu'il refusait d'ouvrir la porte. Julio Sosa Celis se terre chez lui, terrorisé, mais il a besoin de soins. Un témoignage anonyme relate.
Je ne savais pas quoi croire. C'est toujours comme ça quand une nouvelle urgence survient. Au cours des 45 derniers jours d'occupation fédérale, se frayer un chemin dans le brouillard de la guerre pour découvrir ce qui vient de se passer est devenu une sensation familière. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo en direct, montrant une foule en train de s'enfuir alors que des agents de l'ICE leur lançaient des grenades lacrymogènes et assourdissantes.
Deux jeunes sont arrêtés après avoir tiré des feux d'artifice sur l'ICE, puis sont libérés par la foule. Malgré un soutien de la police locale qui tire des gaz lacrymo et des grenades assourdissantes en totale complicité avec les agents fédéraux, l'ICE bat en retraite. Elle abandonne plusieurs véhicules. À l'intérieur, les émeutiers et émeutières découvrent quantité de documents, dont les plans tactiques des opérations que l'ICE prévoyait de monter, mais aussi du matériel comme un kit de prise d'empreintes digitales. Ils découvrent aussi des médailles avec des têtes de mort qui servent de récompense pour les agents lorsqu'ils réussissent à expulser des gens. L'ensemble est diffusé en direct sur Internet. Les voitures sont détruites et estampillées « Natives ».
Une ambiance festive de fête de quartier s'installait. Les gens allumaient des feux d'artifice. Quelqu'un dansait sur le toit d'un véhicule, tandis qu'une autre personne passait à plein volume le morceau « I don't fuck with you » de Big Sean. Certains automobilistes qui passaient par là levaient le poing par la fenêtre et criaient « Fuck ICE !»« Je suis tellement fière de ma ville », me suis-je surprise à murmurer à voix haute. Après 7 semaines d'atrocités commises par ces fascistes, les gens ripostaient enfin.
Le 14 janvier fera date. Un quartier est parvenu dans l'émeute à faire fuir l'ICE et la police. La peur changerait-elle de camp? En tout cas, c'est un tournant. L'événement pose aussi, et à nouveau, la question du soutien de la police à l'ICE, malgré l'apparente hostilité de nombreux maires démocrates à la présence de la police de l'immigration dans leur ville. Comme à Chicago ou à Los Angeles, les forces de police de l'État et de la ville permettent à l'ICE de mener à bien ses opérations. On entend aussi les libéraux dire parfois de ne pas se rendre sur les lieux des enlèvements. Et pourquoi? D'abord parce qu'il y a un enjeu pour les politiciens de maintenir l'ordre, c'est-à-dire de perpétuer le fonctionnement habituel de la société, même si celle-ci sombre dans le fascisme. La paix sociale leur est précieuse, mais qu'est-ce que la paix sociale au juste? C'est un privilège pour des responsables politiques de pouvoir attendre avant d'agir, c'est-à-dire de négocier et d'espérer une sortie politicienne à la crise, ou d'attendre la fin du mandat de Donald Trump et éventuellement de réparer ensuite les dégâts causés. Or, pour les personnes qui sont arrêtées par l'ICE, l'expulsion et le traumatisme dû à la violence est un danger immédiat et définitif. Comme le dit Crime Think, il est peut-être dans l'intérêt des maires libéraux de maintenir l'ordre alors que des mercenaires kidnappent et tuent des personnes, mais ce n'est pas dans le nôtre. Enfin, la résistance autonome, en dehors du cadre autorisé par les partis, est systématiquement vue comme une menace. Lorsque le peuple se rend compte qu'il n'a pas besoin de l'État ni des forces de l'ordre pour vivre en paix, la raison d'être des politiciens disparaît. Les démocrates, bien que plus libéraux que Trump, appartiennent au même camp et défendent tout autant l'emprise de l'État-nation dont le fascisme n'est que le prolongement. L'élément colonial n'est pas à occulter ici. D'ailleurs, le QG de l'ICE à Minneapolis est étrangement situé à côté d'un fort qui marque l'une des premières installations coloniales dans la région. Jadis, s'y trouvait un centre de détention pour les natifs Dakota. Les collectifs anti-ICE de Minneapolis veulent passer à la vitesse supérieure. Une grève générale est annoncée pour le 23 janvier. Or, juste avant, le 20 janvier, une photo fait le tour du monde. Celle d'un enfant de 5 ans, Liam Ramos, coiffé d'un bonnet de lapin bleu, arrêté avec son père près de son école primaire. La scène se passe à Columbia Heights, tout proche de Minneapolis. L'enfant et son père sont finalement déportés dans un centre de détention au Texas, à 2000 km de là, quand bien même la famille n'est pas en situation irrégulière, puisqu'elle a une demande en cours de procédure. On saura plus tard que l'ICE a utilisé l'enfant comme appât pour tenter de faire sortir la mère de la maison familiale afin de l'arrêter elle aussi. Mary Granlund, président des écoles de la ville, dit à la presse.
Nos écoles et nos communautés doivent être des lieux sûrs, où les enfants et les familles peuvent s'épanouir. Et nous avons besoin d'une solution diplomatique à cette situation. Et nous avons besoin de votre aide, car au final, nous avons des sifflets. Et ils ont des armes.
Et le 23 janvier, la grève est un succès. Tôt le matin, par moins 35 degrés, une petite centaine de personnes bloquent le centre de détention, tandis que quelqu'un abandonne une caravane au beau milieu de la route qui le relie à l'aéroport. Dans la journée, entre 50 et 100 000 personnes défilent sur les avenues où les commerces ont fermé leurs portes. On dénombre un millier d'entreprises qui ont rejoint la grève. Un adulte sur quatre vivant à Minneapolis serait mobilisé. Et 8% de la population aurait séché le travail à l'échelle régionale. Dès le lendemain, une autre personne est assassinée. Alex Jeffrey Pretty, infirmier, 37 ans lui aussi. S'interrompant alors qu'il filmait des violences de Lice pour venir en aide à une femme, il est pris à partie, aspergé de gaz, mis au sol et frappé. Lorsqu'un agent s'aperçoit qu'il porte une arme dans sa poche arrière, il est froidement abattu. 10 balles dans le dos. Son pistolet sera utilisé comme justification. Trump prétend qu'il voulait faire un massacre. Alex Pretty détient pourtant un permis de port d'armes et sur les images, à aucun moment il ne fait un geste qui puisse indiquer qu'il compte s'en servir. Une fois de plus, la colère explose dans les rues des villes jumelles, mais aussi à New York, LA, San Francisco et Oakland. Le quartier de Whittier, où Pretty a été assassiné, se soulève, les habitants et habitantes offrant du mobilier de jardin ou des vieux canapés pour faire des barricades. La foule abonde de tous côtés, mais d'après plusieurs témoignages, c'est surtout la peur et la confusion qui se lisent sur les visages des agents. Ils fuient finalement sous un feu nourri de boules de neige, plusieurs pierres venant même briser les fenêtres de leur voiture. Eat Square est renommé Alex Pretty Square et des prises de parole se succèdent. Un homme d'une vingtaine d'années s'exclame.
Nous avons écrit l'histoire hier. Nous avons lancé une grève générale. Nous avons paralysé toute cette putain de ville. C'est la meilleure arme dont disposent les gens. Personne ne viendra nous sauver. C'est nous qui faisons fonctionner le monde. Et c'est nous qui pouvons le faire s'arrêter. Mais un jour, ce n'est pas suffisant. Nous devons continuer lundi.
Dans la foulée, Greg Bovino, le commandant en chef de l'ICE, ouvertement néo-nazi, est rétrogradé et quitte Minneapolis. Le soir même, une manifestation vient célébrer son départ auprès de l'hôtel où sont hébergés les agents. On crie « ICE égale Gestapo ». À partir de là, les manifestations sont quotidiennes. Des cortèges sillonnent les rues pour empêcher les arrestations. Devant les hôtels, c'est tous les soirs que des gens se réunissent. De plus en plus d'établissements refusent d'ailleurs d'héberger les agents. Certains ont carrément fermé leurs portes. Il ne s'agit plus de seulement faire du bruit. Le 25, en bas de l'hôtel Home to Suites, des barricades sont érigées, des vitres de l'hôtel sont taguées, des tueurs vivent ici. Le hall est envahi et la déco est refaite. Même des clients de l'hôtel se joignent à la manif et des personnes circulant en voiture viennent simplement se garer en plein sur l'avenue. Après 2 heures de boucan, Lice tente une sortie. La foule réplique en lui lançant des casseroles et des boules de neige. Puis tout le monde se disperse. Une demi-heure plus tard, on revient pour reprendre le concert et taguer plus de murs. Cette fois, c'est la police qui arrive et qui suit le rassemblement dans les rues adjacentes. Or, non loin de là, un autre groupe attendait son tour et prend le relais. Le quartier sera ainsi animé pendant plus de 6 heures. Début février, la pression populaire ne se relâche pas, et la tension devient telle que c'est finalement Trump qui craque. Après un premier retrait de 700 agents, la fin de l'opération de Lice est annoncée le 12 février. Les collectifs célèbrent cette première victoire. Plus de 30 000 personnes auraient participé de près ou de loin au comité de réponse rapide. We are the voices, and your end ain't far. La bataille de Minneapolis, avec l'ensemble du mouvement anti-ICE aux États-Unis, doit faire date dans notre référentiel de résistance contemporain. Il démontre que des villes unies et organisées autour du lien social, de l'action simple d'assister, d'alerter et d'être en présence, peut faire face à la 13e armée du monde, dirigée par un fasciste tel que Donald Trump. Bien sûr, la victoire n'est pas totale et Lice est toujours là. Le 17 février, elle a tué une enseignante dans l'état de Géorgie. À Minneapolis, les comités de réponse rapide sont en ce début mars en plein dans une semaine de mobilisation pour ne pas relâcher la pression. C'était l'actu des oubliés, merci de nous avoir écoutés. Au doublage, Marie-Lou, Mona et Antonin.
up in the Sprinter.
Vous retrouverez toutes nos sources sur l'audioblog L'Actu des Oubliés. Quant à la musique, vous avez pu entendre trois chansons liées à la lutte contre l'ICE. La première du rappeur Nourdé, arrêté pendant les émeutes à Minneapolis, avec la chanson Black Kid White Town. Ensuite Ice Age de Track Boost et Nuestro Cielo. Et en ce moment Anti-Ice de Lil Skibidi Man. Joyeux 8 mars et belle grève à toutes et tous. Prenez soin de vous et de vos voisins voisines. Et à dans un mois pour le prochain épisode. It's gonna be a long winter.